Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'aime Kaku Ministries a le plaisir de vous apporter ce message qui transformera votre vie. Pour tout renseignement, allez sur notre site à www.jemkaku.org. Shalom.
Juges, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Bel Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache qu'ils obéiraient au commandement et qu'il l'avait prescrit à leur père par Moïse. Car au verset 2, la Bible dit « Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. » Ici, nous voyons que Dieu a permis qu'il y ait des épreuves dans la vie des enfants d'Israël pour qu'ils puissent connaître et apprendre la guerre. Dieu veut que ses enfants soient aguerris aux techniques de combat et soient capables de pouvoir surmonter l'adversité. Il y a guerre parce qu'il y a opposition. Et quand il y a opposition, il faut que tu saches comment réagir face à l'opposition. Dieu est un grand guerrier, il est un guerrier redoutable. Quand la Bible parle de lui, on dit l'Éternel des armées. Donc s'il est l'Éternel des armées, c'est qui l'armée? L'armée c'est nous et ses anges. Nous sommes son armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel sur la terre. C'est nous qui devons repousser les ennemis de l'Éternel sur la terre. C'est nous qui devons repousser les œuvres de l'ennemi sur la terre. Dieu nous forme donc à la pratique. Et Dieu a plusieurs techniques de combat. Et mais malheureusement, les chrétiens n'en connaissent que quelques-unes. Il y en a plusieurs qu'il a mises à nos dispositions, plusieurs techniques, mais il n'y en a que quelques-unes que nous connaissons. Quand nous prenons, par exemple, on peut le lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc nous ne combattons pas avec les armes de la chair, mais nous combattons par des armes puissantes et par la vertu de Dieu, vertu que Dieu a mise à notre disposition. Amen. Et quelles sont ces armes? Quelles sont ces techniques de combat? Prends également 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Mais donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici le Seigneur, quand vous lisez tout ce passage-là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formes de discipline. Mais c'est une course, c'est un combat. Il y a par exemple, il parle au début, il parle de tous ceux qui courent dans les stades. Ensuite, il parle de la lutte, tous ceux qui combattent s'imposent. Et ensuite, il parle de celui qui frappe. Donc, il parle du, du pugilat et ensuite il repart de la course. Donc en fait, tout est comme une sorte de compétition, de combat. Et il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs sports dans lesquels on combat, il y a plusieurs domaines dans lesquels on s'exerce. Et une chose qui est importante à savoir, c'est que dans chaque jeu ou bien dans chaque combat, dans chaque course, il y a des règles. Et les règles sont différentes les unes des autres. Les règles sont différentes pour un combat de boxe que pour une course. Pour la course, par exemple, on va te demander de courir plus vite que celui qui s'oppose à toi. Mais pour la boxe, on va pas te demander de courir pour sortir du ring. On va te demander de rester dans le ring et d'être agile pour pouvoir éviter les coups de l'autre. Et on va te demander de frapper fort. Alors que si sur la piste de course, tu donnes un coup de poing à ton voisin, on va te disqualifier parce que ce sont des règles qui sont totalement différentes. D'un sport à un autre, les règles sont différentes. Les lois qui régissent ces compétitions-là sont différentes. Amen. Donc il y a des moments, et ça on l'a vu dans l'école de la prière, où on frappe. Il y a des moments où on demande, il y a des moments où on cherche. Dans le combat, il y a des moments où on fuit. Amen. Tu sais pas ça? Il y a des moments où on fuit. Le Seigneur lui-même, il a dit fuyez. Il a dit quoi? Fuyez. Quand vous êtes en face du péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'est pas là que tu vas dire non, je vais résister. On ne résiste pas devant le péché. Pourtant, il a dit résister au diable. Mais il a dit fuyez le péché. Donc, en fonction des attaques que tu reçois, il y a une attitude que tu dois avoir. Ou bien tu fermes ton portable, tu fuis, tu te déplaces, tu sors de l'endroit. Ou bien, je veux dire, si tu te mets à résister vis-à-vis du péché, tu risques d'être surpris. De voir que tu peux tomber dedans les deux pieds dans le péché. Parce qu'on ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Par contre, on peut résister au diable. Mais avant de résister au diable, il faut se confier en l'Éternel. Donc c'est des réactions totalement différentes. Et il est important de comprendre et de savoir quelles sont les grâces que le Seigneur nous a faites qui peuvent nous permettre de pouvoir encore expérimenter plus de force, plus de victoire, plus d'onction, plus de grâce. En plus de la prière, tu as les confessions de foi, mais c'est pas tout. Même la louange est une stratégie de combat. Amen. La danse est une stratégie de combat. Ça peut te surprendre. Mais tu vas voir à travers ces jours que nous allons passer comment certaines personnes sont sorties de situations de combat spirituel parce qu'ils ont dansé à la gloire de Dieu. Vous avez des exemples, notamment l'exemple de David. Les mains levées, lorsque vous levez les mains vers le Seigneur, c'est une manière aussi de combattre. Le parler en langue nous permet de combattre. Le fait de se taire aussi, c'est une manière de combattre. C'est une stratégie de combat spirituel. Le fait de rire aussi, c'est une stratégie de combat spirituel. Le diable t'attaque. Il s'attend à ce que tu pleures, mais toi tu ris. Ça le déstabilise. Amen. Parce que si tu pleures, tu lui donnes ce qu'il veut. Des fois, il y a des attaques qui sont tellement grosses que tu ne peux que rire. Parce que tu sais qui est derrière cette affaire-là. Tu ne peux que rire. Si tu crois en Dieu, quelqu'un d'autre aurait pleuré, mais toi, ça te fait rire. Parce que tu sais que c'est l'ennemi qui est derrière. Amen. Mais tu connais aussi la finalité. C'est que tu auras la victoire. Amen. Donc, c'est l'ensemble de ces techniques-là que nous allons voir. Je vais vous montrer de manière biblique comment est-ce qu'elles ont été utilisées, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On va prendre l'exemple de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Vous allez voir la stratégie de combat par la louange. Actes chapitre 16. À partir du verset 16. La Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous et criaient : ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres et de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant : ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ça c'est fort. Les gens qui frappent des serviteurs de Dieu comme ça. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers et aux gardes, aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Au même instant, les prisonniers les entendaient, ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Comment des gens, après qu'on les ait frappés, commencent à chanter des louanges? Des serviteurs de Dieu. Surtout un homme comme Paul, vraiment que Dieu a utilisé puissamment, qui a vu des miracles, qui a fait des choses, par lesquelles le Seigneur est passé pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu a permis que lui, Paul, on puisse l'attraper, se saisir de lui, le rouer de coups, le prendre, l'attacher, le mettre dans une prison. Là-bas, il aurait pu se plaindre. Seigneur, si c'est ça à faire ton œuvre, moi, je préfère rendre ma démission. Il y a des gens qui fuient devant les problèmes. Mais il a répondu plutôt par la louange. Il a commencé à louer l'Éternel des armées. Il a commencé à célébrer le nom du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, des fois, il faut savoir provoquer Dieu. En faisant des choses que quelqu'un de normal dans cette situation ne ferait pas. C'est comme ça qu'on provoque Dieu. C'est comme ça qu'on met des fois Dieu à l'épreuve. Dans Malachi, il a dit : mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est pas la peine de tenter Dieu par des paroles de murmure, par des paroles négatives, par des paroles de plainte. Mais il faut le provoquer. On m'a frappé, mais je te loue. On m'a insulté, mais je te loue. On m'a bafoué, mais je te loue, j'exalte ton nom. Tu le fais d'un cœur sincère. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait et ce que Dieu peut faire. Et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Amen. Louer Dieu va apporter la victoire dans ta vie. Regarde dans Genèse chapitre 29, verset 35. Genèse 29, 35. La Bible parle ici de Léa et de Rachel et d'un certain Jacob. Jacob donc qui a travaillé pour avoir Rachel et par un stratagème, Laban s'est arrangé pour qu'il épouse Léa d'abord. Et ensuite, il a dû travailler encore pendant 7 ans pour pouvoir finalement avoir Rachel. Amen. Et on aura l'occasion d'étudier aussi la vie de Léa ainsi que la vie de Rachel. Mais vous allez voir que Léa, son nom se traduit par celle qui est éclairée. Elle n'avait pas la beauté, mais elle avait une grâce sur sa vie. Elle était éclairée, elle voyait, elle comprenait, elle avait une certaine sagesse des choses. Et la Bible nous dit donc au verset 35 du chapitre 29, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. La Bible nous dit que Rachel n'a pas pu faire d'enfant, mais Léa a pu en faire. Elle a enfanté plusieurs, elle a donné plusieurs enfants à son mari, Jacob. Et le dernier, elle a appelé Juda, louange. Pourquoi? Parce que Léa quémandait l'amour de son mari. Lorsqu'il la voyait, il voyait quelqu'un pour qui il avait dû travailler pendant 7 ans sans vraiment vouloir l'épouser. Et il s'est retrouvé avec elle, pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'on l'a grugé. Donc vous pouvez vous imaginer une femme dans cette position, dans cette situation. Et elle, elle pensait que faire des enfants à cet homme-là allait lui assurer l'amour de cet homme. Et elle lui en a fait un premier, un deuxième, un troisième. Et ensuite elle a dit, bon, après Juda, maintenant c'est fini. Moi, maintenant je vais commencer à louer l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus faire d'autres enfants pour pouvoir plaire à son mari, mais elle a pris la décision maintenant de changer de stratégie et de commencer à louer Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous allons étudier encore, comme je vous l'ai dit, on va étudier Léa. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Finalement, Rachel ne lui a pas survécu. Léa a expérimenté énormément de bénédictions et il a eu énormément de joie par la suite dans son mariage. Et qui plus est, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, on dit le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc elle, c'est par elle également que le Fils de Dieu est passé pour entrer sur cette terre-là. Je vous ai dit que chaque femme qui se retrouve dans la généalogie de Jésus est là parce qu'elle a posé à un moment un acte particulier. On peut le vérifier dans la vie de Ruth, on peut le vérifier dans la vie de Rebecca. Et on peut le vérifier également dans la vie de Léa, qui a changé sa stratégie et qui a commencé à louer l'Éternel. David est descendu de Juda. David est descendu de ceux qui louent Dieu. Et la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Regardons un peu dans Psaume chapitre 34, verset 1. Donc c'est Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je louerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, je bénirai l'Éternel. Regardez dans Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Psaume 119, verset 164. Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Amen. Sept fois le jour, je te célèbre. Ça veut dire quoi? Que David louait l'Éternel 7 fois par jour. 7 fois par jour, il louait l'Éternel. 7 fois par jour, il disait ce que l'Éternel était capable de faire et ce que l'Éternel faisait. 7 fois par jour, il louait l'Éternel. Il donnait gloire à l'Éternel. Et il nous dit, dans le psaume 22, verset 4, « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. » Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il faut louer Dieu à voix haute. Psaume 66, verset 8. peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Amen. Car la louange fait entrer, nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que la louange est importante. Et que la louange doit être bien conduite. Et que la louange doit être conduite par des personnes qui sont sanctifiées, qui aiment le Seigneur, qui ont envie de servir Dieu. Il dit entrer dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Je vous ai dit que l'Éternel est un roi. Il est plus qu'un roi. Il est, la Bible dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et on n'entre pas dans la présence du Seigneur n'importe comment. On entre dans la présence du Seigneur comme on doit honorer un roi et un seigneur. Avec des louanges. Avec des louanges. En Afrique, il y a beaucoup de peuples qui connaissent ça. Les griots qui sont toujours en train de louer la personne. Mais même en diplomatie, c'est la même chose. Quand vous appelez un ambassadeur son excellence, moi je ne sais pas en quoi ils sont excellents. C'est à cause de leur position qu'on les appelle excellence. Mais je sais qu'il n'y en avait qu'un seul qui était excellent sur cette terre-là. C'était Jésus-Christ de Nazareth, qui a montré son excellence dans tous les domaines. Dieu est un roi. Amen. Et Dieu, qui plus est, t'a sauvé pour le louer. Psaume 106, verset 47. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Amen. Donc quand, en quelque sorte, tu ne loues pas Dieu, c'est que tu n'es pas en train de remplir ta part du contrat. Il t'a sauvé pour que tu puisses mettre ta gloire à le louer. Et le louer, c'est, ça se fait à travers les danses, à travers tes offrandes, à travers le fruit de tes lèvres, des choses que tu dis, que tu prononces. Louer Dieu, c'est toute une attitude. Et Dieu veut qu'on le loue, qu'on fasse cette démonstration de joie, de bénédiction. Montrer à quel point il est bon, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Si Paul a pu louer Dieu après qu'on l'ait frappé, c'est que tout le monde peut louer Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 15. La Bible dit, « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Dis à ton voisin, sacrifice. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Le mot sacrifice est bien choisi. Parce que si tu attends d'être heureux avant de louer Dieu, c'est que ce n'est pas un sacrifice de louange. Si tu attends un miracle avant de louer, c'est que ce n'est plus un sacrifice. C'est tout ce que tu veux sauf un sacrifice. Ce sont des remerciements. Vous avez des personnes qui ne peuvent louer Dieu que quand ils ont vu un miracle. Ou bien lorsqu'ils ont vu quelque chose. Ou lorsqu'ils ont vu une percée. Mais ici, il dit, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ça veut dire que je ne me sens pas comme, je n'ai pas envie de louer, mais je loue. C'est un sacrifice. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour le louer, mais je le loue. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est quelque chose que je fais, que je me pousse à faire, que je m'oblige à faire. C'est un sacrifice. Vous avez, c'est vrai, des sacrifices. Il y a ce qu'on appelle sacrifice volontaire. C'est-à-dire, c'est vous-même qui décidez de quel sacrifice vous allez faire. Et il y a ce qu'on appelle les sacrifices que Dieu a demandé. Il y a des sacrifices que toi-même tu décides de faire. Il y a des sacrifices que Dieu a demandé. Amen. Et avant de t'acquitter des sacrifices volontaires, il faut t'acquitter des sacrifices obligatoires. Ce que Dieu a demandé. Et ce que Dieu a demandé, c'est la louange. Il est important de revenir dessus parce que il ne faut pas que tu sois ignorant dans un domaine ou bien dans une stratégie de combat, ou bien dans un domaine de ta vie chrétienne. Parce que si tu es ignorant dans un domaine, c'est dans ce domaine-là que l'ennemi va vouloir t'accuser. Amen. C'est pour ça qu'on fait souvent un survol. On touche à tout. On touche à tous les aspects. On voit tous les détails pour que vous ayez le conseil complet de Dieu par rapport à la situation. Certains aujourd'hui traversent des difficultés parce qu'ils ne savent pas louer l'Éternel. Parce qu'ils n'apportent pas à l'Éternel des sacrifices de louange. Des sacrifices de louange. Il faut louer Dieu. Et je vois que dans la francophonie, les gens sont trop coincés. La même personne là, quand elle était dans le monde, tu la voyais en boîte de nuit, tu ne pouvais pas. Elle dansait depuis l'entrée de la boîte jusqu'à la piste de danse. Elle dansait sur la piste de danse de minuit jusqu'à 6 heures du matin. On venait même la chasser de la boîte. On dit pardon, faut partir maintenant à la maison. Elle cherche même s'il n'y a pas un autre after hour quelque part, elle va aller terminer le reste de la soirée là-bas. Mais quand tu arrives à l'église, tu prends un air bizarre là, on dirait. Oh, la Bible dit que David savait louer l'Éternel. Non seulement il louait l'Éternel, mais il dansait pour Dieu. Quand l'arche devait revenir en Israël, la Bible dit que David a pris un pagne, il a attaché ça autour de ses reins pour pouvoir danser. Et il dansait, sa femme était sur un balcon, il dit, mais c'est le roi qui est là-bas. On dit oui. Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Comme un fou. Mais c'était de l'orgueil de sa part. C'est pour ça que les gens ont composé cette chanson-là. David était un grand roi. Mais il s'est levé pour danser. Il était un roi puissant. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu veut voir ses enfants le louer. Démontrer la joie qu'ils ont d'être ses sujets, d'être ses enfants. C'est comme ça que vous allez attirer les gens du monde. Mais quand vous allez au culte, comme si vous allez à l'enterrement, les voisins te voient sortir de la maison. Il dit mes condoléances. Tu dis non, je m'en vais à l'église. Tu dis non, je m'en vais à l'église. Il dit ah bon, c'est à l'église on va comme ça. Oh, quand tu étais dans le monde, tu devais partir en boîte à partir de 18h, 19h. Quand tu rentres même déjà, tu commences à mettre la musique dans ton salon. La même musique que tu vas aller danser en boîte là. Et tu bouges dans tous les sens. Tu sors, tu appelles tes amis. Bon, allez, rendez-vous à tel endroit. Vous allez, vous faites le show, vous dansez là-bas. Après, vous dites, bon, on se retrouve à tel endroit. C'était ça, non? Mais Dieu ne vous a pas interdit de le louer. Et Dieu ne vous a pas interdit de danser, de chanter pour sa gloire. Au contraire, c'est ce qu'il attend. Avant, tu louais, tu chantais, tu dansais pour le diable. Maintenant, il faut chanter, louer et danser pour l'Éternel des armées. Avant l'heure du culte même, déjà, tu commences la louange à la maison. Amen. Et pendant que tu sors de chez toi, c'est dans la louange aussi. Avec le sourire. Tu loues ton Dieu. Là, le voisin te dit, ah, ça va mon frère. Ça va, voisin. Où est-ce que vous allez? À un mariage? Tu dis, non, je vais à l'église. Ah, bon. Ah, il se dit, mais l'église, là, ça doit être intéressant, hein? Une église où on va dans la joie comme ça, le culte n'a même pas encore commencé, déjà tu es dans la joie. Déjà tu commences à louer le Seigneur. Vous savez, la louange est plus grand des fois que le témoignage. C'est plus grand que le témoignage. Toi, tu penses qu'un jour, tu vas l'attraper dans un couloir pour lui parler de Jésus. Mais lui, il a besoin de voir dans ta vie le fruit que ce Jésus-là peut apporter à un homme. Il faut arrêter les figures d'enterrement. Tu vas à l'église, croise le voisin dans le couloir. Oh chérie, bon, vraiment, on va partir à l'église. Il n'y a même pas d'engouement, il n'y a pas de joie. Et demain, tu lui dis, voisin, je t'invite à l'église. Il va dire, ah, vraiment, merci beaucoup. Je suis très occupé. La prochaine fois, on verra. Parce qu'il s'imagine avoir ta tête, que là où tu vas, c'est pas intéressant. Sois dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Amen. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est un sacrifice. Tu ne peux pas faire un sacrifice qui ne va pas te faire mal. Un sacrifice, ça nous coûte toujours. Et ça nous coûte de louer Dieu, d'adorer Dieu, de l'exalter, de le célébrer, alors que, quelque part, il y a des choses qui nous manquent. Mais qui t'a dit que tu dois louer Dieu seulement lorsque tu as tout? Amen. C'est le fait de le louer dans le manque, de lui apporter des sacrifices de louange qui vont te permettre de pouvoir entrer dans les bénédictions de Dieu. Le pauvre doit louer Dieu. Psaume 74, verset 21. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Amen. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. C'est le seul moyen pour eux de sortir de la situation. Si quelqu'un est malheureux et qu'il est pauvre, qu'il célèbre le nom du Seigneur. Amen. Qu'il célèbre le nom de Jésus. C'est la solution pour sortir des difficultés. Dans la pauvreté, je le loue. Dans l'abondance, je le loue. Dans le manque, je le loue. Quand j'ai plus qu'assez, je le loue. Et je continue de le louer et je le louerai. Parce que ma vie sera toujours dédiée à la louange de l'Éternel des armées. Amen. Quand tu commences à louer Dieu, Dieu multiplie ce que tu as. Il va te donner en abondance. On l'a vu lorsqu'on a parlé de l'action de grâce. C'est la même attitude. L'attitude de remercier, l'attitude d'être dans la joie, l'attitude de rendre grâce à Dieu, l'attitude de, pas, je dirais pas de l'encenser, parce que l'encenser, c'est un peu comme si tu loues, mais en t'attendant quand même à quelque chose. Non, ça doit être totalement, entièrement innocent de ta part. Ça doit être toujours la volonté de rechercher à ce que le nom de l'Éternel soit exalté et soit glorifié. Il faut que les gens entendent les louanges de Dieu dans la rue. Il faut que les gens entendent les louanges de Dieu dans ta voiture. Il faut que les gens entendent les louanges de Dieu dans ton quartier. On ne doit pas seulement entendre du rap ou bien du R&B ou bien du reggae. On doit entendre aussi le nom de Jésus être exalté, être glorifié. Amen. C'est un moyen de toucher les gens. La musique, la louange, c'est un moyen de toucher le cœur des gens, de toucher les peuples, de toucher les enfants de Dieu. C'est un moyen d'atteindre les gens. Amen. Et on va plus intéresser les gens avec la louange qu'avec les plaintes et les pleurs. Alléluia. Si tu es pauvre, loue l'Éternel. Si tu es malade, loue l'Éternel. Si tu es fatigué, loue l'Éternel. S'il y a un manque dans ta vie, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Alléluia. Paul et Silas, devant la souffrance, devant les douleurs qu'ils expérimentaient, devant les difficultés qu'ils avaient, parce que c'était difficile à comprendre, eux, ils ont fait une délivrance à cause de ça, on les frappe, on les met en prison. La fille les harcelait. L'esprit qui était en elle ne faisait que parler et raconter des choses. À un moment, Paul était fatigué. Il a dit, esprit, sort au nom de Jésus. L'esprit est sorti. Et à cause de ça, il se retrouve en prison. Il ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas dit, ah. Donc, le ministère de délivrance, là, c'est pas bon, hein. Je vais laisser le ministère de délivrance. Parce que le ministère de délivrance m'a emmené en prison. C'est ça qui arrive souvent. Lorsque vous commencez à toucher à certaines vérités, à certaines choses, la persécution se lève. Les difficultés se lèvent. Et vous demandez maintenant, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je traverse ces difficultés alors que je suis dans la vérité? C'est l'accusateur. On va voir aussi l'ennemi. C'est non. On appelle Satan l'accusateur. Il vient et dit, oh Seigneur, est-ce que tu sais pourquoi il passe son temps à te glorifier comme ça? Dieu dit non, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me servir. Non, c'est parce que grâce à l'évangile, il a une situation. Permets qu'on le frappe un jour pour toi, tu vas voir comment il va réagir. Dieu dit, ah bon, tu es sûr? Satan dit, tu vas voir. Dieu dit, bon, moi, je sais comment il va réagir, mais pour que toi, tu vois ce que j'ai mis en cet homme, pour que tu vois qui est cet homme, pour que tu vois, que tu comprennes pourquoi je l'ai choisi, permets que cette situation lui arrive, mais ne touche pas à sa vie. Comme Job. Et une situation arrive. Tu vas donner raison à qui? À Satan ou bien à Dieu? À qui? À Dieu. Et comment tu donnes raison à Dieu? Lorsque tu le loues. Lorsque malgré les difficultés, tu le loues. Lorsque tu continues à faire comme si tu avais reçu quelque chose d'extraordinaire. Comme si tu avais reçu une bénédiction. Tu le loues. Et dans cette situation, quand tu loues Dieu, qui a honte maintenant? Satan. Et maintenant, Dieu amène la consolation. Amen. Dieu amène la consolation. Dieu maintenant amène la consolation. Et la consolation, c'est toujours deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus que ce que tu avais avant. Parce que quand Dieu te console, la consolation te fait oublier les difficultés que tu as traversées. La consolation de Dieu, c'est pas une tape sur l'épaule, ça va aller, non. La consolation de Dieu, c'est tu as perdu une maison, tiens, voilà deux maisons. Amen. Tu as perdu ton travail à 1 500 euros le mois, tiens, voilà un travail à 3 000 euros le mois. Alléluia. Amen. C'est ça la consolation de Dieu. Il te donne toujours plus, il te donne toujours davantage. Il t'augmente, il te bénit, il te multiplie. Mais il faut toujours garder une attitude de louange. Et non une attitude de funérailles, de plainte, de pleurs. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Et tu vas lui dire de te donner le cœur d'un adorateur, le cœur de quelqu'un qui le loue. Tu vas lui demander pardon pour toutes les fois où tu as manqué le but, où tu as raté l'occasion de le louer. Prie ton Dieu ce soir. Il y a le coup. Attendez. Après, vous allez venir. Thank you. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit. Et je me repens, Seigneur. De tout ce qui a pu sortir de ma bouche qui ne sont pas des louanges à ton égard. Je veux utiliser la stratégie du combat par les louanges. Dorénavant, je te louerai en toutes circonstances et en toutes situations. Je te louerai, Seigneur. J'exalterai ton nom, je magnifierai ton nom, je te louerai, Seigneur. Mets la louange dans ma bouche. Mets la louange dans mon cœur. Permets-moi, Seigneur, de surmonter l'adversité dans le sourire. Permets-moi de surmonter l'adversité dans la joie. Permets-moi de m'élever au-dessus des obstacles dans la louange, Seigneur. Et que la joie, l'amour, soit mon partage. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, yes, Lord. Loué Yahvé, loué Yahvé Dieu, loué Yahvé au plus haut des cieux, loué Yahvé, loué Yahvé Dieu, loué Yahvé au plus haut des cieux. Esaïe, continue doucement, enfant sonore. Voilà. 61, verset 1 à 3. Seigneur, en train de nettoyer le cœur de quelqu'un ce soir, la tristesse, l'amertume, la douleur, les pleurs s'éloignent de ton cœur. Esaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Ensuite, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrains bêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dis, j'arrache. Le vêtement de deuil.
Le vêtement de deuil.
Et je revêts.
Et je revêts.
Le vêtement.
Le vêtement.
De louange.
De louange.
Je refuse.
Je refuse.
L'esprit d'abattement.
L'esprit d'abattement.
De tristesse.
De tristesse.
Et je revêts.
Et je revêts.
L'esprit de joie. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Parce que l'huile de joie va couler sur ta vie. Il dit ôtez le vêtement de deuil, des plaintes, des critiques, de l'apitoiement sur vous-même et revêtez le manteau de la louange. Personne n'est attiré par quelqu'un de triste et de malheureux. Si vous voulez être véritablement des ambassadeurs de Christ, les enfants de Dieu et attirer des âmes vers lui, il faut que le masque de la tristesse et de la douleur soit arraché de votre vie. Et le Seigneur agit maintenant. Il agit au milieu de nous ce soir. Il agit au milieu de nous ce soir. My God, il agit au milieu de nous ce soir. Il agit au milieu de nous ce soir. De manière miraculeuse, tu vas voir la main de Dieu s'étendre et arracher de ta vie la tristesse et la douleur, l'apitoiement sur soi, l'abattement. Il va l'arracher et te revêtir du manteau, du bonheur et de la joie, t'arroser d'une huile de joie. Une huile de joie. Une huile de joie. Une huile de paix. Une huile de joie. My God. My God. Le Consolateur est à l'œuvre actuellement. Le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation est à l'œuvre au milieu de nous ce soir. Il traite avec chacun d'entre nous. Il est en train de changer ton vêtement. Il est en train de changer ton manteau spirituel. Tu vas expérimenter la joie, tu vas manifester la joie, tu vas nager dans le bonheur et dans la joie. Et c'est une joie qui va venir de l'intérieur, pas une joie qui vient de l'extérieur, mais une joie qui vient de l'intérieur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi te donne la joie du ciel. Celui qui est en toi te donne la joie de manifester la victoire. La présence de Dieu envahit tout endroit où cette voix peut être entendue. Quel que soit le moyen, quel que soit le mode. Si tu entends ma voix actuellement, l'esprit te libère de l'esprit d'abattement, de l'esprit de deuil, de l'esprit d'apitoiement sur soi. Et il t'arrose d'une huile de joie. D'une huile de joie. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu accomplis au milieu de nous et dans nos vies, Seigneur.
au nom de Jésus. Amen.
Amen. On va s'asseoir encore 2 minutes dans la présence de Dieu. Je vais terminer mon message. Je sentais le désir, le besoin de donner un temps au Seigneur, de nous parler, d'exercer le ministère envers nous. Sachez que David a vaincu Goliath grâce à la louange. Grâce à un esprit différent de l'esprit d'abattement et d'apitoiement qui était tombé sur tout Israël. Lorsqu'ils ont vu Goliath, ils ont eu peur. Ils ont commencé à s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais David a fait certaines choses. Quand vous regardez dans 1 Samuel 17, verset 37, je vais lire pour vous. On va aller un peu plus vite. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Je vous ai dit, louer la louange, c'est dire ce que Dieu a fait et dire ce que Dieu peut faire. Et c'est la louange qu'il a utilisée. Il a dit, « L'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours va me délivrer de cet homme. » Amen. C'est ça la louange. Tu es confronté à une situation. L'Éternel qui m'a sauvé de la mort va me délivrer de cet accident. L'Éternel qui m'a sauvé de certaines calamités va me sauver de cette situation. Alléluia. Tu utilises la louange. La louange, c'est pas forcément de chanter. Mais la louange, c'est de dire ce que Dieu, c'est de rappeler et de dire ce que Dieu a fait et ce que Dieu est capable de faire. Amen. Dans 1 Samuel 17, verset 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du champ, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Voilà quelqu'un qui savait louer Dieu, et qui savait appeler la louange de Dieu dans toutes circonstances. Je veux te dire aussi quelque chose, mon frère. Si tu n'aimes pas louer Dieu, et si tu n'aimes pas la louange, tu seras malheureux au ciel. Tu seras mal à l'aise au ciel. Parce que le ciel est un endroit, on peut l'illustrer tout de suite, tu prends Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 verset 11 à 12. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 12. En disant « Amen », la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui doit être à notre Dieu? La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Amen. Apocalypse 19, verset 5. Apocalypse 19, verset 5. Il nous dit, et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, louez-le. Amen. Dis à ton voisin, loue-le. Loue-le. Parce que tu es prédestiné à le louer. Amen. Tu es prédestiné à le louer. Éphésiens. Chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Quelle est la raison? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Amen. Dont il nous a favorisés. Donc pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Ce Dieu puissant que nous servons. Ce Dieu excellent que nous aimons et que nous adorons. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le vêtement du deuil ne sera plus notre partage, mais c'est plutôt le vêtement de la louange, le revêtement de l'amour, le revêtement de la louange, le revêtement de la force, le revêtement de la paix, le revêtement de la stabilité, le revêtement de la puissance qui est notre partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.